Radio Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bunia en Ituri. Voici les titres du journal Vespéral. Au Congo central, les chefs de direction des trois provinces éducationnelles confirment la rentrée scolaire à la date du lundi 5 septembre prochain. C'est conformément au calendrier rendu public par l'autorité de tutelle sur toute l'étendue du territoire national. Après la perturbation du transport terrestre par le manque de gazoil et de l'essence, le kérosène est actuellement à la base de la perturbation du transport aérien en RDC. Du coup, les compagnies d'aviation connaissent des difficultés dans les programmes de vol, aussi bien domestiques qu'internationaux. L'invité de ce journal est le ministre provincial du transport et voies de communication du Tanganyika. Cyprien Katombe revient sur la mesure interdisant strictement de transporter les passagers au-dessus de marchandises dans des véhicules surchargés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les chefs de direction des trois provinces éducationnelles du Congo central confirment la rentrée scolaire à la date du lundi 5 septembre prochain. C'est conformément au calendrier rendu public par l'autorité de tutelle sur toute l'étendue du territoire national. Ces derniers demandent aux parents d'envoyer les enfants à l'école dès ce lundi à 7h, tout en précisant qu'aucune absence des enseignants ne sera tolérée. Les points avec Nana Pluris Mambou.
Les directeurs des trois provinces éducationnelles du Congo central que nous avons contactés sont unanimes sur la question liée à la date de la rentrée scolaire. Pour eux, la reprise des cours est bel et bien fixée pour ce 5 septembre. Aucun report n'est envisagé, comme le confirme le prophète du Congo central 2, Jean Tshisekedi Kabasele.
Je vous affirme que la rentrée scolaire aura lieu le 5 septembre, selon le calendrier scolaire qui a été rendu public. Quant à tous ceux qui se rencontrent dans des couloirs, nous les qualifions comme de vastes blagues. Et je demande à tous les chefs d'établissement de ma juridiction d'être présents le 5 septembre dans leurs écoles respectives.
Cette folle rumeur sur les reports de la rentrée scolaire a aussi une incidence sur la vente des fournitures scolaires. Dans les différents sites de vente que nous avons parcourus, un ralentissement est observé. Témoignage.
La vente s'est faite à compte-gouttes. On ne sent pas que c'est la dernière semaine de la rentrée.
À quelques heures de cette reprise des cours, dans bon nombre d'établissements scolaires publics de Matadi, il n'y a aucune préparation qui s'est faite en termes d'entretien des salles de classe, des latrines ou même de la cour des écoles. Seuls les bureaux sont ouverts pour les inscriptions. Des élèves. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Maïndombé, la rentrée scolaire prévue le 5 septembre 2022 ne sera pas possible dans les territoires de Kwamout. C'est ce que dit le ministre provincial de l'EPST, Ambroise Nkele. C'est parce que plusieurs écoles ont été incendiées et les populations sont en déplacement à cause de violences occasionnées par les conflits Teke-Yaka. Il plaide auprès du gouvernement central pour imposer la paix dans cette partie, reconstruire les écoles afin que les élèves reprennent le chemin de l'école, même en retard. Ambroise Nkele l'a dit à Irène Boma.
La situation de Kwamout est préoccupante. La population est en exil. Il y a un groupe qui s'est allé jusque dans le territoire de Yumbi, territoire de Bolobo, et il y a les autres qui ont traversé vers le Congo en face. Le fait que la rentrée est prévue en date du 5 septembre, c'est tout un problème. Que la population rejoigne facilement leur pénate pour que les enfants puissent rejoindre l'école. Je pense que du fait que tout le monde connaît la situation de Kwamout, la rentrée serait un peu tardive. Il y a des écoles qui sont incendiées. Vous voyez comme la population est en déplacement. À quand ils seront de retour pour construire une fusée de hangar? C'est ça le problème qui nous préoccupe, la situation de Kwamout. Vraiment, le gouvernement central doit s'en occuper, doit prendre ça en charge, en considération pour qu'on construise les écoles. Comme il y a des écoles qui sont incendiées, alors comment ces enfants vont étudier? Et à quand ils vont débuter? Il faut qu'il ait l'implication du gouvernement central.
Le comité d'acheteurs et évacuateurs des produits agricoles, CEPA, dénonce la revue à la hausse de la taxe sur cargaison de maïs qui quitte Mweka au Kasaï pour Kananga au Kasaï central. Alors que l'arrêté du gouverneur du Kasaï fixe cette taxe à 192 000 francs congolais, le chef des centres de perception de la DRCAS l'a ramené à 300 000 francs congolais. Cette situation crée une confusion région et les commerçants s'opposent au paiement de cette taxe, soutenant qu'un communiqué d'un chef de centre ne peut pas annuler une décision de l'autorité provinciale. Le président du CEPA appelle les autorités du Kassai à résoudre ce problème pour permettre l'évacuation de maïs de Mweka dans les wagons vers Kananga. Georges Mukenge l'a dit à François Kadima.
Nous demandons, nous, c'est à l'État, c'est de nous éclairer la situation et d'éviter aussi de mettre de barrières devant nos actions. L'arrêté d'un gouverneur, c'est une décision officielle, mais qui ne peut pas être annulée par les communiqués d'un chef de centre à Mweka. Or, la province du Kassai a autant de centres de perception d'impôts. Il y a le centre à Ilebo, le centre à Dekessé, le centre à Kamogne. Mais un chef de centre va lancer un communiqué qui annule l'arrêté du gouverneur. Nous voulons que le gouverneur de province de Tshikapa trouve solution à cette décision qui est prise pour nous de manière illégale par le chef de centre et aussi arriver jusqu'à faire les recouvrements avec des policiers dans les installations de la SNCC. Et c'est vraiment notre inquiétude. Nous voulons que l'État intervienne dans cette situation.
Par rapport à cette situation, le ministre provincial de l'Agriculture a promis de discuter avec son collègue de finances de qui dépend la DRCAS avant de fixer l'opinion. Et puis, après la perturbation du transport terrestre par le manque de gasoil et de l'essence, aujourd'hui c'est le manque du kérosène qui perturbe les transports aériens en RDC. Du coup, les compagnies d'aviation connaissent des difficultés dans les programmes de vols domestiques et internationaux. Des détails avec Daniel Tambizoni.
Ce manque de kérosène a tellement dérangé que Congo Airways, la compagnie nationale, a présenté ses excuses à sa clientèle à travers un communiqué d'il y a quelques jours. La CAA, qui exploite aussi l'espace congolais, en a souffert. Plusieurs vols ont été annulés pour la même cause. Témoignage d'un agent commercial de CAA.
Ce fait-là de manque de carburant est réel. Ça fait en sorte que les vols sont reportés de temps à autre et ça cause de graves désagréments vis-à-vis de clients. Donc quelqu'un avait son programme pour telle date et on reporte le vol. Voyez un peu ce que ça donne.
Le 22 août, la compagnie SN Bruxelles a annulé son vol au départ de Kinshasa pour manque de kérosène et la liste n'est pas exhaustive. Mais à notre passage ce mercredi, la SN Bruxelles dit que depuis, tout est redevenu à l'ordre. Pour faire face à cette situation à Kinshasa, par exemple, certaines compagnies aériennes ont revu à la hausse le prix du billet pour les vols domestiques. Ainsi, les billets sont augmentés de 35 dollars pour le billet Kinshasa-Lubumbashi et Kinshasa-Goma pour assurer l'achat du kérosène. La même perturbation des vols est très ressentie à Mbujimayi dans le Kassai oriental. Cependant, à Goma dans le Nord Kivu, le commandant de l'aéroport a attesté qu'aucune compagnie ne se plaint pour l'instant et que tous les vols sont effectifs. Il dit aussi que Goma s'approvisionne auprès des trois sociétés dont CEP Congo et Congo Pétrole.
Manifestation aujourd'hui des passagers de Congo Airways devant le bureau de cette compagnie à Gemena. La raison, le vol qui devrait les ramener ce jeudi à Kinshasa a été de nouveau annulé sans aucune explication. Bloqués depuis deux semaines dans cette ville du sud Ubangi, sans ressources, ils ne savent plus à quel sens se vouer afin de regagner leur milieu de vie. Des détails avec Jody Daniel Kachama.
Ils étaient une cinquantaine à envahir ce matin les installations des Congo Airways à Gemena afin d'exprimer leur déception et colère. Suivez les témoignages de cette dame.
Il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien. Ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet aller-retour. Les agents fuient, parce qu'on a vu le colonel qui est venu. Le bureau était ouvert. Le colonel, quand il est descendu, le monsieur là, le chef aussi c'est d'agence, est sorti. C'est comme si le colonel est venu les libérer pour les protéger. Et continue à vendre les billets.
Le maire de la ville de Gemena est descendu sur les lieux pour calmer la situation. On écoute Jean-Rémy Alengue.
Je ne saurais pas décider au lieu et leur place. Directement comme mon gouverneur.
Je vais aller directement voir les directeurs. Tranquillisez-vous. Ne faites pas les désordres. Et après, je reviendrai encore vers vous parce que nous allons chercher la solution.
Les responsables de Congo Airways affirment que ce désagrément est dû au manque de carburant sans toutefois fournir d'autres détails.
Notez que le passager bloqué à Gemena sont près de 150 personnes. Booster le moral des troupes et échanger avec les autorités locales ainsi que la société civile, c'est l'objet de la visite de Madame Bintou Keïta à Kiwanja, au Nord Kivu, ce jeudi. L'autorité de Rutshuru a reconnu que la population avait été induite en erreur par des personnes qui affirmaient que la MONUSCO hébergeait des rebelles du M23 dans sa base de Kiwanja. Vérification faite, il s'agissait plutôt des casques bleus marocains qui venaient s'installer à Kiwanja. Il dit reconnaître les efforts fournis par la mission onisienne dans cette partie du pays et salue la bonne collaboration qui existe entre la MONUSCO et l'autorité locale. Cependant, comme toute œuvre humaine, l'action de la MONUSCO n'est pas parfaite. Et quand nous avons l'occasion, nous le disons, ajoute-t-il. On écoute Jason Tawiha.
Oui, en fait, vous savez, lorsque on a eu l'information qu'il y avait les contingents marocains qui venaient de Boutembo pour s'installer ici à Kiwanja, il y a eu des fausses rumeurs disant que non, au contraire, ce sont les M23 qui sont dans la base de la MONUSCO. C'est comme ça que la société civile, certaines autorités vont entrer dans les cas de la MONUSCO, ils vont commencer à vérifier. Et curieusement, ils n'ont rien raconté. Donc, c'était seulement des fausses rumeurs. Tout ça, bien sûr, il y a des intox. Il y a beaucoup de gens qui sont intoxiqués par rapport à ce que la MONUSCO fait. Mais quand vous voyez ce que nous faisons ici avec la MONUSCO, vous voyez qu'il y a vraiment une étroite collaboration avec les autorités. Nous n'avons rien à reprocher à la MONUSCO. Sauf que vous savez que les hommes, les humains, ils ont toujours des forces et des faiblesses. Alors, s'il y a des faiblesses, peut-être à la MONUSCO, nous devons leur dire que non, voilà, il y a une faiblesse. S'il y a la force, nous devons reconnaître qu'il y a la force. Mais en cas d'espèce, en tout cas, les éléments de M23, ils n'étaient pas dans la base de la MONUSCO à Kiwanja. Donc c'est seulement les gens qui tentaient seulement de le dire pour vouloir soulever les esprits des manifestants.
Et puis 22 personnes, dont 8 miliciens, sont mortes hier mercredi pendant les affrontements entre les FARDC et le groupe armé Codeco à Mongalou, 85 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. On signale également des dégâts matériels importants, environ 60 maisons et boutiques incendiées et le commissariat de police saccagé. Selon des sources concordantes, toute la commune de Mongalou est actuellement sous contrôle de l'armée qui poursuit les patrouilles dans cette entité minière. Des détails avec Isaac Remoyopi.
Les miliciens de la Codeco s'étaient introduits mardi vers 11h dans trois quartiers de Mongalou. Ils ont occupé ces coins jusqu'à la nuit tombée avant d'être repoussés par les FARDC. Les combats ont repris mercredi matin entre les deux parties et on dirait environ 5h. Selon des sources de sécurité, 13 civils composés essentiellement des orpailleurs ont été tués par ces groupes armés et 4 autres blessés. L'armée a neutralisé 8 miliciens de la Codeco, dont les commandants des opérations de cette milice et 11 autres ont été blessés. Du côté de l'armée, il y a un mort, affirmé les mêmes sources. Ces miliciens ont également incendié 41 maisons et 18 boutiques dont les propriétaires avaient fui pendant les combats. Ils ont également mis les feux au bureau du service des renseignements et saccagé le commissariat de la police de Mongalou. Après cette défaite, ces miliciens se sont retirés dans leur bastion à Brésil, Digene et Mbao, ajoutent des sources locales. Pour le moment, un calme s'observe dans cette commune rurale pendant que les FARDC poursuivent l'opération de ratissage. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
En bref, en Ituri encore, 19 personnes tuées, plusieurs autres disparues ainsi que des biens de la population emportés. Tel est le nouveau bilan de la dernière attaque de mardi dernier des rebelles de ZADF à Biakato et sa périphérie dans la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa. Selon la société civile locale, les victimes ont été abattues pendant leur fuite lors de l'incursion de ces rebelles. Par ailleurs, les sources militaires affirment avoir neutralisé 6 ZADF. Le CIMECO, syndicat des médecins du Congo, renouvelle son engagement à poursuivre de prester en prenant en charge les malades dans les structures sanitaires publiques. Ceci en dépit de la poursuite des mouvements de grève depuis bientôt 2 mois par d'autres syndicats dont le CINAMED. Dans une communication ce jeudi à Kinshasa aux médias, le secrétaire général du CIMECO a salué la concrétisation par le gouvernement d'un bon nombre de ses promesses en lien en direct avec les revendications des médecins. Plus d'explications dans ces résumés que nous propose Billy Ivan Lutumba.
À ce jour, par rapport à l'avenant à la du 3 août 2021, il n'y a pas encore un motif valable qui justifierait une quelconque grève, affirme Dr Juvenal Mwanda, secrétaire général du CIMECO.
L'ordonnance portant promotion au grade des médecins a été signée et publiée. Les recours des médecins bloqués ont été examinés et les médecins ont été débloqués. La mécanisation des 1000 médecins est une réalité puisque les 1000 ont été identifiés et leurs noms ont été envoyés aux services compétents pour mécanisation effective en octobre 2022. L'alignement à la prime de risque de 2000 médecins du régime général et de 200 du régime particulier est effectif au 4e trimestre, au moment où je vous parle, il y a les listes de médecins à admettre sous statut qui sont en train d'être finalisées pour être envoyés à la fonction publique. Il s'agit donc des 5 actions concrètes des engagements pris par le gouvernement de la République.
À leurs confrères en grève, le CIMECO affirme n'avoir qu'un seul mot.
C'est justement d'avoir une lecture claire de la situation et de retrouver le cadre qui a été tracé entre le bon syndicat de médecins et les banques gouvernementales. Car en dehors de ces quatre, nous risquons de continuer à gérer une crise qui pourrait peut-être avoir des conséquences non pas seulement évitables pour notre population, mais aussi une désarticulation de nos propres activités et du propre combat pour la matérialisation des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la République.
En cette période de finalisation du projet de budget 2023, le CIMECO encourage le gouvernement à concrétiser les autres engagements non encore pris en compte jusque-là.
Actualité internationale.
Un manifestant a été tué hier mercredi au Soudan. L'incident s'est produit alors que les manifestations contre la présence militaire au pouvoir depuis le putsch d'octobre 2021 sont réprimées. Et puis des inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sont arrivés ce jeudi à la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine pour une mission aussi risquée qu'entendue, ont rapporté les agences de presse russes. L'agence RIA Novosti a publié une vidéo de leur convoi constitué notamment des véhicules portant le sigle de l'ONU arrivant à cette centrale qui est contrôlée par les forces russes et qui a été la cible de plusieurs bombardements ces derniers temps.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre provincial de Transport et Voies de Communication du Tanganyika. Cyprien Katombe revient sur la mesure interdisant strictement de transporter les passagers au-dessus de marchandises dans de véhicules surchargés. Il est interrogé à partir de Kalemie par Paul Mounanga.
Monsieur le ministre Cyprien Katombe, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pris une décision qui interdit à certains véhicules de transporter des passagers au-dessus des marchandises qui sont surchargées. Est-ce que vous avez pris le temps d'informer les responsables des différents véhicules qui font des longs trajets, notamment dans différents territoires, ici dans le Tanganyika?
Cette mesure a été prise déjà, bien avant, avec mon prédécesseur que j'ai remplacé. Donc, je me suis juste inscrit dans la ligne logique. Mais sinon, tous les concernés étaient d'abord appelés avant, dans mon cabinet. J'ai eu un entretien avec eux. Il y a eu les représentants de Brassimba, Brassicol, les représentants des propriétés des véhicules, ainsi de suite. Nous avons échangé avec eux. Ils avaient même demandé un moratoire par rapport à la prise de cette décision. Mais je les ai tout simplement rappelé que c'était une décision qui a été prise depuis longtemps. Alors je ne fais que appliquer ce qui a été pris par mon prédécesseur.
Alors comme c'est une mesure qui existe déjà, pourquoi est-ce que vous avez voulu rappeler cela?
J'ai rappelé cela parce qu'il n'y avait pas de suivi, ainsi que de mesures d'accompagnement. C'est ainsi que j'ai rappelé, en concertation avec l'autorité provinciale, qui a voulu que la vie de sa population soit protégée, parce que nous avons constaté avec ces modes de transport, les utilisateurs de ces transports qui, non seulement ils font ce qu'on appelle les surchargements, mais ils mettent également les personnes au-dessus. Et quand il y a des accidents qui surviennent souvent, vous allez voir, c'est la personne qui tombe, les passagers qui tombent, et la marchandise vient au-dessus de cette personne. Et c'est les autorités qui sont appelées à tout moment, parce qu'il y a multiplicité de cas d'accidents, et il y a beaucoup de morts que nous enregistrons. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de rappeler encore cette mesure qui a été prise par ton prédécesseur.
Quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont suivre votre décision? Parce que pendant plusieurs mois, cette mesure n'a jamais été respectée. Il y a des grands camions qui sont surchargés et qui prennent même des passagers au-dessus des marchandises.
Le premier moyen, ou soit mesure d'accompagnement, c'est d'abord la mobilisation de tous les services œuvrant dans les secteurs de transport, notamment la PSR. Nous avons la Commission nationale de la prévention routière. Nous avons tous les services de Transcom qui doivent travailler en collaboration avec le ministère pour faire que cette mesure ne puisse pas souffrir d'aucune inexécution. Donc tout le monde est instruit à son niveau de faire application de cette mesure.
Et il faut des moyens de transport appropriés pour transporter la population. Mais dans les 6 territoires du Tanganyika, tout le monde le sait, il n'y a pas de moyens de transport, il n'y a pas de véhicules pour transporter la population. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça?
Nous avons déjà un grand nombre de véhicules au niveau de Kalemie qui font ce mode de transport interterritorial.
C'est quelle sorte de véhicule?
Bon, par rapport à la marchandise, il y a ceux qui utilisent les gros camions. Souvent, il y a la société Brassimba qui a plusieurs. Il y a aussi d'autres transporteurs privés qui ont des camions. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ces camions transportent tout simplement la marchandise, mais ils transportent aussi les passagers au-dessus de ces marchandises. Or que nous avons des véhicules appropriés, réservés juste au transport de passagers, notamment les Land Cruiser, ainsi que d'autres véhicules appropriés par rapport à cela. Mais ce que nous décrions, ce que on transporte, et les marchandises ainsi que les personnes au-dessus.
Monsieur le ministre, il y a un problème qui va aussi se poser par rapport à votre mesure. C'est notamment des véhicules qui proviennent d'autres provinces. Parce que dans d'autres provinces, je suppose qu'il n'y a pas cette mesure. Et lorsqu'il y a des gens qui sont au-dessus de la marchandise, au-dessus des camions, et qu'ils pénètrent dans la province du Tanganyika en provenance d'autres provinces, et comment est-ce que ça va se passer?
Bon, notre mesure vise d'abord à protéger tout le monde. Nous sommes là pour protéger notre population qui vit non seulement dans cette province, mais également en dehors de la province. Cependant, ceux qui viennent d'autres provinces, la première des choses est de se conformer par rapport à la décision prise par nous qui sommes ici.
Monsieur le ministre Cyprien Katombe, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le ministre provincial de transport et voies de communication du Tanganyika. Cyprien Katombe a été interrogé par Paul Mounanga. Merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.